s'achève. N'attendons pas de finir tes rêves. Le Seigneur a frappé à tes volets, mais toi tu dormais. Et son peuple en passant t'appelait ami, 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 ami. Et son peuple en passant t'appelait, mais toi tu dormais. N'attendons pas de finir tes rêves. Et son peuple en passant t'appelait, mais toi tu dormais. Un malade a crié jusqu'à l'aurore, ami, 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 ami. Un malade a crié jusqu'à l'aurore, mais toi tu fais le mort. N'attendons pas que la nuit s'achève. N'attendons pas de finir tes rêves. Un malade a crié jusqu'à l'aurore, mais toi tu fais le mort. Un pauvre homme t'a demandé deux sous d'espoir, ami, 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 ami. Un pauvre homme t'a demandé deux sous d'espoir, mais tu ne veux pas le voir. N'attendons pas que la nuit s'achève. N'attendons pas de finir tes rêves. Un pauvre homme t'a demandé deux sous d'espoir, mais tu ne veux pas le voir. Mon voisin est passé la haine au pain, ami, 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 ami. Mon voisin est passé la haine au pain, tu restes dans ton coin. N'attendons pas que la nuit s'achève. N'attendons pas de finir tes rêves. Mon voisin est passé la haine au coin, tu restes dans ton coin. Seigneur a frappé à tes volets, ami, 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 ami. Et son peuple en passant t'appelait, mais toi tu dormais. Mais un matin en poussant ta porte, tu trouveras l'espérance morte. Il n'a pas eu bonne gens, il n'a pas eu bonne gens. Tout son compte de vie, tout son compte de vie. Il n'a pas eu bonne gens, il n'a pas eu bonne gens. Tout son compte de vie, le petit gamin du voisin qu'on enterre ce matin. Il n'a pas eu bonne gens, il n'a pas eu bonne gens, tout
son compte de joie, tout son compte de joie. Il n'a pas une bonne jambe, il n'a pas une bonne jambe, tout son compte de joie. Le vieillard, mon voisin, qui meurt avec sa faim. Bonne gens, s'il n'a pas eu bonne gens, tout son compte de vie, tout son compte de vie. S'il n'a pas eu bonne gens, s'il n'a pas eu bonne gens, tout son compte de vie et d'amour et de joie, je sais bien qu'il l'aura.
Beau
inconnus passaient. Pendant la nuit pleine, il a tissé la laine, il rentre avec sa peine. Rue des Longuets, l'inconnu passait. Rue des Longuets, l'inconnu passait.
Vous allez entendre la grande cantatrice de Savigny.
Oh, 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 oh. Alors attends, comment c'est?
Comment ça fait rien le bout de la machine? C'est que j'ai l'air moi.
Ouais, non, c'est bon, c'est pour qu'il apprenne.
Je vais pas penser ça à lui.
Toute la famille humaine se rassemble près de toi. T'acclamant pour souveraine et te redisant sa foi. Sainte Vierge, ô notre reine, garde-nous auprès de toi. Toute la famille humaine jette son appel vers toi. Et décharge en toi sa peine, sa souffrance et son effroi. Sainte Vierge, ô notre reine, garde-nous auprès de toi.
Le dernier.
Montre à la famille humaine le Sauveur entre tes bras. Que sa grâce nous soutienne dans les luttes du trépas. Sainte Vierge, ô notre reine, garde-nous auprès de toi.
Ça y est. Voilà. Alors vous allez écouter maintenant l'audition.
Il y a toute une colonie des...
Allez, on parle.
Vas-y. Dis-le toi alors si tu veux.
Oui. Tu sais pas quoi dire?
Tu sais pas le chanson?
Chante comme je sais pas quoi.
Allez, chante.
Je sais pas chanter.
En marseillais, allez. Tu sais pas chanter?
Chante faux alors.
Ça fait rien, mais justement, ça sera plus amusant. C'est beau Marseille?
Oui.
Hein? Oui.
Ça dit autre chose.
Dis-moi, je suis un garçon très gentil.
Non.
Attention, pas plus ça.
Je vais dire. Pour s'amuser, vas-y. Ben, dis bonjour, monsieur l'abbé, comment allez-vous?
Ben, vas-y.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Allez, vous chantez quelque chose, hein? Je sais pas.
Gérard,
dis-moi,
bonjour père, comment ça
marche?
Comment ça?
Bonjour père, comment ça marche?
Dis-le. Bonjour père, comment ça marche?
Je parle trop près, là, ça va faire du bruit.
Allez, cause ensemble, vas-y.
Disputez-vous,
tirez-vous
les cheveux.
Tu parles?
Ça s'entend pas d'ailleurs.
Oui, alors là, ça va. Zut! Alors écoutez.
Vous avez quelque chose?
Il y a qu'un enregistrement.
Oh, oh, oh!
Les multiples images n'auraient jamais été soupçonnées. Et j'entrevis dès lors la tâche immense, considérable, mais combien prenante de contribuer à l'inventaire de tous ces documents. Non.
Ça dépasse les limites. Alors. Attention, vous. Marche pas sans le radio.
Allez.
Allez, pas. Vas-y, oh, tu fais. Tu.
Tiens, ça. C'est bien.
Oh, oui, heureusement.
Bah, vas-y.
Vas-y. Certains ont vraiment entendu que j'étais beau cuisinier. Je vous demande. C'est sûr?
C'est mal écrit, c'est pas bien écrit, le père.
Et surtout, c'est écrit la machine. Le panier à salade.
Panier à salade.
Non, oui, je sens des choses.
Je vois qui m'est arrivé, le
jour. Oui, d'un.
Lundi, je suis allé à Chigny.
Numéro 5.
Lundi à Chigny,
vous savez 120. Savigny, Assigny, Centrange. Abonnement 300 francs. N'importe quoi. Allez, continue. Attends. Arrête. Arrête, tu vas casser le maître pliant. Bon.
Il n'y a pas d'homme meilleur, pas d'homme plus gentil, pas d'homme plus sympathique que monsieur le curé de Sury en Vaud.
Et c'est vrai.
Attends, non mais attends, où c'est qu'il y a un Ouida? Va pas faire un Ouida pour moi.
Bon, allez, Gérard, je vais nous faire une page de lecture. Hein.
Chante.
Mais tu sais chanter,
si,
toi?
Si, si, Gérard, mets-nous gentiment sans respirer fortement. Allez, n'importe quoi.
Mets-le un peu plus loin.
Comme ça,
oui, tu sais pas chanter ça. Tu...
Allez,
alors,
vas-y.
Vas-y, pars. Si j'étais boxeur, je vous parlerais de mon sport. Et puis si il marche en cacahuète...
Parle lentement.
De praline.
Lentement. Oh,
de praline, où tous des prospectus et toute ma marchandise serait de qualité supérieure, prix imbattable. Je suis prêtre. Je suis un homme consacré au Seigneur. Je lui ai donné ma vie comme j'ai comme vous avez donné votre la vôtre à votre mari, votre femme, vos enfants. Je voudrais vous parler de lui. Quand vous parlez de ceux que vous aimez, Me le permettrez-vous? Cela m'arrivera assez souvent et ça ne peut être autrement. Le bon Dieu, en effet, ce n'est pas une idée en l'air. C'est quelqu'un de vivant qui aime et qui mérite d'être aimé pour lui-même sans limite. Non, non, j'ai fait un non. Continue. Non, moi, je fais un point. Bon. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez. Pardonne chez nous, vous êtes notre mère, daignez à votre fils offrir l'humble prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous...
Il ne faut pas le mettre trop près, on te dit.
Bon, alors, on va attendre. Attends.
Première expédition française à l'Himalaya, dirigée par Henri de Ségogne. À la même époque, de grandes victoires dans les Alpes mettaient l'alpinisme français dans une situation de choix. Après la guerre de 39-45, une nouvelle génération d'alpinistes dont l'esprit d'aventure avait été développé par les événements intervenus en France durant cette période, se lança à l'assaut des sommets réputés les plus difficiles de nos massifs alpins. Dans l'enthousiasme de ces succès, chacun visait à l'extérieur de nos frontières les montagnes les plus hautes, les plus belles et les plus lointaines. C'est ainsi qu'en 1950, la première autorisation d'entrer au Népal, au cœur de l'Himalaya, nous arriva. Tous les alpinistes de France étaient volontaires pour participer à l'expédition de l'Annapurna. Cette aventure illustre bien l'esprit qui régnait alors parmi eux. Tenter un premier 8000 que l'on considérait un peu comme le mur du son dans l'alpinisme. C'était la promesse d'un progrès décisif dans la prise de possession de l'univers, de celui qu'on a appelé le troisième pôle. Découvrir ce faisant des pays inexplorés, prendre contact avec des civilisations profondément originales et d'autant plus intéressantes que nous pressentions qu'elles étaient évoluées. Enfin, ce qui nous passionnait par-dessus tout, c'était la perspective de tenter une aventure sans précédent par l'ampleur et la difficulté d'enjeu, le coefficient de risque incompressible inhérent à l'expédition, les techniques nouvelles à mettre en usage, une tactique d'assaut collectif jusque-là inconnue de nous. Nous avons été comblés dans notre attente. Cette victoire apporta bien davantage qu'un premier 8000 ou une belle exploration. Elle nous révéla que les plus grandes découvertes restaient à faire en nous. Le problème, l'angoisse de la survie de deux des participants, Lachenal et moi, même s'ils firent apparaître les plus nobles sentiments que peuvent éprouver les hommes pour les autres hommes, apporta au surplus, chez ceux qui souffrirent le plus, la vision d'un monde et d'une vie que jusque-là, ils n'avaient pu entrevoir. Et c'est pourquoi il me semble que la vraie aventure est celle qui modifie l'homme et sa personnalité. Depuis l'Annapurna, plus de 50 expéditions françaises se sont dirigées sur la plupart des massifs extra-européens, en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. La plupart ont remporté non seulement des victoires sur les sommets qu'elles tentaient, mais une fructueuse moisson de connaissances. Certes, le mobile premier de l'alpinisme n'est pas l'exploration. Mais la fierté de l'alpinisme français est d'avoir, au cours de ces dernières années, apporté une contribution importante à la connaissance de notre monde et à ce titre, d'avoir fait œuvre d'exploration.
Jean Rouche revient d'Afrique. En réponse aux questions de ses amis, il met d'abord en marche son magnétophone.
Ah ! Ah ! Ah ! Ce chant que vous entendez, c'est le chant d'un bûcheron de la forêt qui est en train d'abattre un arbre et qui lui dit « Arbre, excuse-moi, je te fais du mal. Ne me fais pas du mal comme je te fais du mal. » L'arbre est tombé. Maintenant, c'est le silence dans la forêt. Et l'Africain qui abattait cet arbre m'a dit, « Tu vois, cet arbre, c'est un wawa, c'est une femme. » Et il est tombé en se plaignant comme tombent les femmes. Si cet arbre avait été un mahogany, un acajou, il serait tombé comme un guerrier, comme un homme, sans une plainte.
Eh bien, c'est une Afrique traditionnelle, mais est-ce que cette Afrique disparaît tellement, à votre avis ?
Non, l'Afrique traditionnelle existe encore, et malheureusement, ce que l'on peut dire, c'est qu'on la connaît encore très très mal. Malgré tous les travaux faits par mes collègues, malgré les travaux faits par des administrateurs, des missionnaires, il y a actuellement des trous énormes dans cette connaissance que nous avons de cette Afrique traditionnelle. Par exemple, dans la région que j'étudie, dans l'Afrique occidentale, il y a une population comme les Gourmanché, qui groupe peut-être 250 ou 270 000 hommes, dans la région de Fadan Gourma, eh bien, on ne sait rien sur eux. Il y a eu un simple petit lexique de la langue gourmanché et aucune étude systématique n'a été faite sur ce groupe. Et à l'intérieur de l'Afrique, il y a des trous aussi grands que cela.
La présence des missionnaires, des explorateurs, des administrateurs, des soldats, des maîtres d'école, la présence en somme de l'Europe, a fait évoluer très vite l'Afrique, c'est bien votre avis ?
Oui, et il faut le dire, et c'est ce qui me semble actuellement très important, c'est que si cette Afrique traditionnelle existe, s'il est nécessaire de l'étudier le plus rapidement possible, il faut aussi que l'on tienne compte de ce fait européen qui, sur la côte, date de 3 ou 4 siècles, et dans l'intérieur de l'Afrique occidentale, par exemple, date de 50 ans. Et actuellement, il est certain que si la structure profonde, si les traditions n'ont pas été modifiées, eh bien, il y a le fait européen qui apporte, dans la vie de tous les jours, un bouleversement continuel. J'en ai fait une expérience, un de mes amis, Hillo Gaudel, qui a appris quelques mots de français parce que je le connais depuis très longtemps, et qui vit simplement en cultivant le mil pendant 3 mois de l'année, et en chassant l'hippopotame de temps en temps pendant le reste de l'année. C'est un garçon qui a actuellement près de 30 ans, et j'avais un magnétophone portatif. Et un jour, je lui dis, Hillo, nous allons nous mettre devant le Zougoubi, c'était le nom du magnétophone, et tu pourras dire exactement tout ce que tu veux. Et je m'attendais à ce qu'il parle de la tradition, du génie du fleuve, des hippopotames. Eh bien, non.
Je vais vous dire à quelqu'un la question de l'impôt.
La question de l'impôt.
Oui.
Très bien.
Oui.
Alors,
l'impôt, c'est amendé à nous.
Là, je vous traduis, l'impôt, c'est très ennuyeux.
Oui.
Hein?
Oui.
Il n'a pas de travail qu'il gagne à 20.
Il n'a pas de travail pour gagner de l'argent.
Pour chasser un peu de quelque chose.
Oui.
Hein? Ça, c'est un mandat, ça.
Il est censé payer.
Oui, de payer.
Et alors, comment il fait?
Alors, moi, ça va là qu'il y en a, c'est passé de bandits pour payer des impôts.
Il a vendu son cheval pour payer ses impôts.
Voilà. Ouais. Eh bien, voilà les préoccupations qu'un pêcheur d'hippopotame a enregistrées, comme vous l'avez vu, tout naturellement, dans un langage quelquefois savoureux, un peu hermétique, mais j'espère que vous l'avez compris. C'est un citoyen français, il doit payer l'impôt. Eh bien, actuellement, le problème de l'impôt est un problème qu'un ethnologue, à mon avis, ne doit pas laisser de côté. C'est un problème qui est aussi important que tous les autres.
Le monde indigène d'aujourd'hui est un immense brassage de traditions chancelantes, et d'idéologie nouvelle. Et comment vous, Jean Rouche, ethnologue, sociologue et explorateur, envisagez-vous l'avenir de l'Africain?
Je peux vous dire la façon dont certains Africains voient l'avenir, ou plus exactement la façon dont ils voient les relations entre les Noirs et les Blancs. Car après tout, il est juste de savoir ce que les Noirs pensent de nous, puisque nous, nous disons ce que nous pensons d'eux. Ils m'ont dit, vous les Blancs, quand vous êtes venus chez nous, je parle du Niger, nous vous avons considérés comme des conquérants, comme des dieux. Vous pouviez tout faire. Et puis, maintenant, nous vous connaissons depuis longtemps, et nous avons vu que ce qui vous intéressait, c'était la technique. Vous êtes des techniciens, et le garçon qui me parlait m'a dit, vous êtes des forgerons. ça correspond au fait que vous savez bâtir des avions, vous savez construire des voitures. Nous, nous voulons apprendre à nous servir de ces avions, de ces voitures. Nous vous achèterons ce matériel que vous construisez pour nous. J'ai parlé de cette réaction à d'autres Africains, par exemple à Paris. Et elle me paraît assez importante. Ce changement d'opinion, si vous voulez, passer de l'état de Dieu, de divinité, à l'état de forgeron, eh bien, c'est exactement dans la ligne traditionnelle. La ligne traditionnelle de l'Afrique qui considère que toute évolution de vie doit se faire suivant un rythme cyclique, suivant une vibration, la vibration dont parlait le professeur Griol. Après avoir été Dieu, nous sommes forgerons. Après, on trouvera un autre élément. Et ceci dépend à la fois des Africains et des Blancs.
Excellence, il n'est pas tellement loin ce jour où dans votre cathédrale vous me confériez le sacrement de l'ordre. Et je me souviens d'un moment particulièrement émouvant. À genoux, devant vous, les mains jointes dans les vôtres, vous m'avez demandé si je promettais obéissance. En vous regardant dans les yeux, je vous ai répondu « Promito, je le promets ». Cette obéissance, Monseigneur, ce n'est que 6 ans après que j'eus l'occasion de l'exercer à votre égard de façon pénible. Devant le manque de prêtres, qui est un de vos soucis crucifiants, vous décidiez, en effet, et avec une délicatesse qui m'a conquis tout de suite, de me rappeler en Berry. Cela, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que ma santé n'ait pas à en souffrir. J'obéis donc, et le temps passe. Mais, sans doute, vous souvenez-vous, d'ailleurs, de la réflexion que je vous fis quelques mois après. Je vous dis, Monseigneur, j'ai obéi. Eh bien, vraiment, je ne regrette pas d'avoir obéi. Il faut que reconnaître que Dieu, tout semble l'indiquer, a béni cette obéissance. Sans doute, je regrettais la Corrèze et ses beaux paysages, des confrères aimés et une communauté paroissiale déjà bien formée à laquelle j'étais très attaché. Mais ici, j'ai trouvé les magnifiques coteaux du Sancerrois qui me rappellent la Corrèze. Je quittais de bons confrères, mais j'ai eu la consolation de retrouver l'abbé Bonneval, qui depuis mon entrée au séminaire a toujours été pour moi l'ami très cher. Nous partageons la joie d'être voisins, je le sais, bien que ma présence près de lui soit pour moi une lourde responsabilité. Monsieur le chanoine Girard a entendu dire par Monsieur l'abbé Bonneval, sans doute parce que je me permets de le taquiner un peu, ce que d'ailleurs il me rend bien, lors de la bénédiction d'une croix à Chavignol. Ah, ce curé de Sury, je l'aime bien, mais depuis qu'il est en Sancerrois, il me fait damner. J'ose espérer que Monsieur l'abbé Bonneval ne m'en voudra pas trop de lui rendre aujourd'hui, et une fois de plus, la monnaie de son affectueuse malice. Ce fut une grande joie pour moi aussi de faire la connaissance de M. l'archiprêtre de Sancerre, dont la piété, la bonté, tout autant que l'amitié, sont un véritable réconfort. Joie encore d'avoir près de moi depuis un an M. l'abbé Blin. Tous les deux, nous sommes passés par le Prado, ce qui, en plus de notre affection fraternelle, nous rapproche de façon spéciale sur le plan du travail apostolique. Je ne parlerai pas de tous les autres bons confrères que la Providence a placés sur ma route, sinon pour dire que nos liens ont pu se resserrer encore depuis que M. le chanoine Girard vient chaque mois nous réunir, et nous débordons même un peu le canton, pour un entretien spirituel et la discussion de questions de pastoral. Je profite de ces quelques mots, Excellence, pour vous dire, ainsi qu'à M. le chanoine Girard et à tous les confrères, ma profonde gratitude pour la façon dont j'ai été accueilli en Berry et pour l'aide affectueuse que j'ai trouvée près de tous. Enfin, j'ai laissé en Corrèze une sympathique communauté paroissiale, c'est vrai. Mais je puis vous assurer, Monseigneur, que les paroisses que vous m'avez confiées ont réagi magnifiquement jusqu'ici à toutes mes demandes. L'église de Suriambo n'est pas tout à fait aussi grande que votre cathédrale, Monseigneur. Elle est bien grande tout de même pour les 780 habitants de Sury. J'étais habitué à Chaumeil à trouver les 40 ou 70 fidèles des dimanches ordinaires bien groupés dans la nef. En arrivant ici, je fus un peu dérouté en voyant les quelques 150 personnes qui viennent en moyenne à la messe dominicale dispersées aux quatre coins de l'église. La nécessité de regrouper tout ce monde me parut un des premiers travaux à effectuer. Mais pour cela, il fallait changer des conditions matérielles. C'est alors que nous avons remplacé les stalles, qui n'étaient occupés que 3 ou 4 fois l'an, par les beaux bancs en chêne que vous voyez. C'est un artisan du pays qui a effectué le travail. Ensuite, il fallait pouvoir se faire entendre sans trop de peine, car pour les grandes fêtes, la nef entière ne suffit pas toujours. La sonorisation de l'église a donc été entreprise et réalisée. Enfin, puisque saint Thomas nous dit qu'il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu, puisque la grande sainte Thérèse nous dit aussi que pour bien faire oraison, pour bien prier, il faut tenir compte des conditions matérielles, nous avons fait installer le chauffage. À cette occasion, j'ai pu me rendre compte de la compréhension et de la générosité remarquable des gens de Sury. Un dimanche, voyant que la question du chauffage intéressait tout le monde, j'annonçais: mes frères, si vous voulez être chauffés à la Noël, c'est-à-dire dans un mois et demi, il me faudrait trouver 250 000 francs dans les 10 jours, et la moitié de l'église sera équipée. Or, en 10 jours, ce ne sont pas 250 000 francs qui ont été trouvés, mais exactement 311 800 francs. Plus des 2/3 de l'église sont donc actuellement chauffés. Cependant, voilà plusieurs années que les récoltes sont médiocres. Je ne sais pas pourquoi, mais Saint-Vincent, qui est pourtant fêté de façon splendide ici, reste sourd à nos prières. Mais si cette année, comme on aimerait l'espérer, la récolte est abondante, que ne faut-il pas attendre d'une telle générosité, étant donné ce qu'elle a été en des périodes difficiles? Sur le plan matériel, il reste encore fort à faire. L'électricité est à réinstaller entièrement. La municipalité, de son côté, fait son devoir en prenant soin du bien commun. L'église est entièrement classée. Monsieur Gaston, l'architecte départemental, et un verrier ont établi un devis pour la réfection du toit et des vitraux. Une deuxième tranche est prévue pour la remise en état de l'intérieur. Souhaitons que la commune, aidée par les beaux-arts, puisse rapidement assurer cette charge, bien lourde, il faut le reconnaître. De mon côté, si j'ai pu, grâce à tous, payer la plus grosse part des travaux, il reste encore cependant 350 000 francs à trouver d'ici la fin de l'année. Je ne vois qu'une solution: renvoyer, comme je l'ai fait la première fois, de nouvelles enveloppes à toute la population. Et j'espère, Monseigneur, pouvoir vous annoncer d'ici peu qu'une fois de plus, cette générosité de tous ne s'est pas démentie, bien que la vie soit difficile pour tout le monde. Ce sera d'ailleurs une nouvelle occasion à l'esprit communautaire de se manifester. Cet esprit communautaire se précise de jour en jour, les conditions matérielles nécessaires étant réalisées maintenant. Actuellement, les fidèles se rassemblent tous dans la nef, aussi bien à Saint-James qu'à Sury. Aucun banc ne reste libre. Pour en arriver là, je suis parti de ce principe, depuis que je suis prêtre, que j'avais en face de moi des gens de bonne volonté, capables de comprendre ce qu'on leur propose. Comment, en effet, lorsque les raisons pratiques et spirituelles d'une attitude, d'un comportement, sont exposées dans la ligne de ce que nous demandent les directoires sur la pastorale de la messe et des sacrements, ne pas réagir chrétiennement? On a si bien compris que nous avons actuellement une petite équipe de jeunes gens et de quelques hommes qui, le dimanche, très fraternellement, accueillent les fidèles à la porte de l'église, se chargent des lectures et même des monitions que je tape tous les samedis pour eux. L'affaire me semble d'ailleurs assez sérieusement établie. J'ai dû, un dimanche, accompagner les jeunes à la Coupe de la Joie, à Bourbon-l'Archambault. C'est M. l'abbé Farcet, l'école Sainte-Marie, qui m'a remplacé. D'après son témoignage, tout le monde était bien groupé. Un jeune père de famille s'est chargé des monitions préparées, et tout le monde, et tout s'est déroulé normalement. Pour cet effort, d'accord, mais d'un grand secours. Il y a peut-être un inconvénient. Essayant de travailler méthodiquement, je procède par étapes, insistant longuement sur tel ou tel point à réaliser, au risque de faire croire que seules ces questions-là me préoccupent et sont importantes pour moi. Ainsi, la réflexion d'un prêtre, dans le fond, ce qui vous intéresse, vous, c'est le culte communautaire. À cela, je pourrais répondre ce que le père Chevrier répétait sans cesse. L'extérieur n'est rien, c'est l'intérieur qui compte. En fait, tout se tient. Comme vous l'écrivez dans votre rapport doctrinal, Monseigneur, précisément parce que les fidèles ne sont qu'un corps, eux qui participent d'un seul pain et d'un seul calice, il n'y a de progrès si personnel de l'un qui ne soit profit de tous. Et les actes les plus communs de l'assemblée liturgique tendent à l'épanouissement de la grâce dans l'âme de chacun de ceux qui y participent. Dès que la charité grandit dans un cœur, puis en s'exerçant dans la contemplation la plus intime et la plus cachée, toute l'Église s'accroît. Nous avons donc à Sury et à Saint-Jean une équipe paroissiale de jeunes gens et d'hommes. Parmi ces jeunes, certains ont déjà participé une ou deux fois à des sessions de la JAC à Hinoï, pareillement pour les jeunes filles. Entre autres activités, ce sont les jeunes de Sury qui ont eux-mêmes effectué les transformations nécessaires pour que la salle Bernadette, réalisée par l'abbé de Roche et les jeunes de l'époque, réponde aux conditions de sécurité. Chez les jeunes foyers, quelques-uns vont aux réunions du MFR à Sancerre, mais souhaitent en plus que l'on fasse des réunions sur la paroisse. Ces foyers sont en général des jeunes formés autrefois par M. l'abbé de Roche, et combien d'entre eux m'ont dit lors de mes visites, « Nous, M. le curé, nous avons fait de la JAC avec l'abbé de Roche. » Les hommes se rassemblent nombreux pour les messes cantonales. Saint-James et Sury ont eu à leur tour la joie de recevoir le canton. La CGF a été relancée et tout laisse prévoir que ce groupement de dames sera un mouvement très actif. Je suis très content de la centaine d'enfants des catéchismes. Leur esprit est excellent et je puis vous dire, Monseigneur, qu'il y a parmi eux non pas une, mais des vocations. Espérons qu'aidés par la grâce de Dieu, ces enfants trouveront le climat paroissial et familial qui permettra à leur vocation d'aboutir. Car, à m'entendre, Excellence, on pourrait croire que tout est parfait dans ces paroisses. Non, bien sûr. Ce n'est pas pour rien que nous répétons tous inlassablement cette belle prière. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Et certes, on peut marquer, parmi tant de positifs magnifiques, bien des négligences. Ici, tout le monde, sans doute, à la fois. Plus de 100 hommes au total font encore leur Pâques pour les deux paroisses. Bien rares sont ceux qui meurent sans sacrement. Cependant, cette nef, que je vous disais trop petite les jours de fête, devient trop grande les dimanches ordinaires. Et, pour ceux qui sont fidèles, nous avons à travailler beaucoup ensemble pour développer notre fin eucharistique et notre sens de l'apostolat. Mais c'est le cas, malheureusement, dans des proportions variables, de toutes les paroisses. Je n'ai donc pas lieu de m'y arrêter. Peut-être pourrez-vous, à l'occasion, encourager tous les fidèles, puisqu'ils sont pleins de volonté, à être plus réguliers à la messe dominicale, et s'ils y viennent régulièrement, à penser à partager un peu plus le pain, un peu plus souvent, le pain de Dieu qui les aidera à vivre dans l'intimité du Christ, et ainsi, par le fait même, à être apôtres, à être lumière pour tous. Tout ce que je vous ai dit n'est-il pas déjà le signe plein d'espérance d'un magnifique renouveau? Pour en revenir aux enfants, je constate avec plaisir que peu à peu, ils prennent l'habitude de communier spontanément par petits groupes le dimanche. C'est d'ailleurs à l'occasion de leur confession que l'on peut se faire, progressivement un travail profond de transformation. J'ai constaté du reste que M. Dubois avait fait dans ce sens un bon travail. La délicatesse de conscience que je rencontre chez beaucoup m'en est un témoignage. Les enfants aiment servir la messe, et nous avons depuis quelques dimanches une équipe de petits chanteurs qui va s'augmenter encore. Saint-James, elle, a la chance de posséder en plus une équipe de chantres. De tout cela, inutile de vous dire ma joie, Monseigneur. Joie aussi de rencontrer tant de dévouement partout. Les deux paroisses possèdent chacune une famille de sacristains dont les bons services ne sont jamais pris en défaut, et des organistes. Celui de Saint-James prend même sur son temps, déjà fort occupé, pour assurer les accompagnements des enterrements ou des mariages. pour Sury, l'organiste se double d'une secrétaire et d'une catéchiste, dont le discret et inlassable dévouement n'est que l'écho de son humilité. Notre Seigneur, durant sa vie publique, était entouré de saintes femmes. Eh bien, à Sury et à Saint-James, j'ai la chance, moi aussi, d'être entouré de saintes femmes. Et mon Dieu, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu trop à leur besoin de leur faire le reproche de Jésus à Marthe. Une seule chose est nécessaire, le Seigneur. En effet, des dames se chargent de l'entretien du linge, de balayer, de fleurir l'église, de cirer les bancs. Des couturières s'offrent et réalisent des aubes blanches pour les enfants. Et même, offre du tissu, que notre bon sacristain, qui est aussi tailleur, se charge de transformer en par-dessus ou en soutane pour le curé. Sur le plan personnel, le bon Dieu m'a fait aussi la grâce de m'envoyer, comme en Corrèze, pour tenir le presbytère, une paroissienne dont le dévouement, le désintéressement et aussi, il faut bien le dire, la patience sont à toute épreuve. Je dis à tous ma reconnaissance, ainsi qu'à tous les paroissiens qui si généreusement viennent approvisionner le presbytère. Tout à l'heure, à la salle Bernadette, au cours du vin d'honneur offert par la paroisse, j'essaierai, Monseigneur, de vous présenter tout ce monde. J'ai l'impression que cela fera beaucoup. D'avance, je m'excuse aussi, comme c'est à prévoir, j'oublie peut-être les plus dévoués, qui sont souvent les plus discrets. Chacun, je le sais, sera heureux d'approcher et de saluer le chef et le père du diocèse. Je vous ai dit, Monseigneur, que j'essayais de travailler méthodiquement, et pourtant vous trouverez sans doute que cet exposé manque de rigueur. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr. J'ai écrit tout cela au fil de la pensée, et ce rapport est du moins l'expression sincère de mon attachement à ces deux paroisses, et aussi l'expression de l'attachement et de la respectueuse affection que je porte à votre Excellence.
Alors, puisqu'il y aura des virages, sur la route, on va prendre le train à la place. Voici le train, qui arrive en gare. Joséphine, Joséphine, Joséphine. Le train démarre de la gare. Tchou, 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 tchou. Même tu, même tu, même tu, même tu. Il monte la côte. Oui, je t'aime, 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 oui, je t'aime,
oui,
je t'aime.
Oui, moi, je t'aime pas.
Oh, bah écoute, depuis ce matin, on a entendu dire que ça...
J'ai téléphoné au téléphone.
C'est ridicule.
Sur son fidèle à nos amours, quand ma campagne sera faite, que mon congé sera fini, nous nous marierons ensemble, ma charmante Virginie. Voilà.
Alain, Alain, dis voir quelque chose. Tu vas voir, ça va être, on te fera entendre après.
Allez. Bonjour, monsieur le curé. Comme ça. Bonjour, monsieur le curé. Très bien. Bonjour, monsieur le curé.
C'est tout ce que tu peux dire?
Dis ce qui fait ton sel. C'est un peu d'or.
Dodo.
Dodo. Il dit ça, chante Dodo. Crie un peu plus. Dodo. Et Dodo. Et Dodo.
Et
Dodo. Comment tu lui dis?
Pour les petits frères, on parle.
Oui. Et Dodo.
Dodo, Serge dormira bientôt, comme ça.
Oui, oui, oui.
Dis comme ça.
Regarde là,
dedans. Oui,
c'est beau, ça.
Oui.
Tu veux rien dire?
Non, dis comme ça.
Pourquoi tu veux rien dire? Oh, il a pleuré.
La petite peut-être elle dirait quelque chose là-bas. Marie, la
non. Moi, je vais pas vous chanter, alors.
C'est une récitation.
Tu veux
être
une résidence?
T'en as pas fait à l'école? en savez, mon grand-père? Félicitations.
Il va me couper si plaît, ça.
Allez, chantez un peu.
La
porcada
madrosa,
eh? Oh, la usa pa. Ma no. No. No si si no la solai. No si si no la solai.
Santa
Fe, no. Yo le he castigado. Il manque le bébé.
Ah, vous y allez?
Le bébé,
allez, il y a tout à l'heure. Dans ce beau paix de bergère, l'éclat de tes beaux yeux me fait sur la fougère venir t'offrir mes voeux. Quand je te vois serais-tu assise sur l'herbe de ton troupeau et ton chien. D'être dans cette plaine auprès de mes moutons, assise sur leur bête, jouant de ma musette et de mon joli mot. Je m'assois dans l'ombrage en gardant mon troupeau. Veux-tu, paix de bergère, me donner ton amour? Tu la fougère, moi des dents de la cour. Je quitte l'équipage, j'embrasserai l'ouvrage avec joie et plaisir. Un château de plaisance nous rendra l'assurance en notre bergerie. Que le bon Dieu m'en garde de quitter